Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Barthas.
En direct.
Sur le 107FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio Barthas. Bienvenue sur le 107. Ça y est, c'est l'automne. Nous sommes aux joies le mercredi 22 septembre. Il est 8h30. Au programme de cette matinale, grâce à Corto dans un instant, nous partons au pont de Montvert pour parler du chemin de Stevenson adapté pour les malvoyants. Puis nous serons en studio pour parler de la Ligue de l'enseignement avec Nicolas Guillem. Et enfin, nous irons à Mende puisque Nico est allé à un ciné-débat qui parlait de l'illettrisme. Bref, plein de choses. Aujourd'hui, il y aura de la musique comme d'hab, mais on commence évidemment par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Je ne sais pas si vous connaissez Reforest. C'est une asso qui a été créée pour participer à l'objectif des 1200 milliards d'arbres plantés d'ici à 2030 pour enrayer la crise environnementale. La solution permet à chacun de planter des arbres gratuitement grâce à ses recherches sur Internet. Alors Thomas de Wilder et Adrien de Malherbe, les créateurs, sont deux amis depuis leurs années en école de commerce et tous les deux sont passionnés par l'entrepreneuriat. Ils cofondent Reforest en avril 2020. En période de confinement. Le principe est simple, il suffit d'installer sur votre ordinateur une extension Chrome, Firefox ou Micro Edge, que sais-je. L'utilisateur peut ensuite voir directement depuis son moteur de recherche préféré quels résultats concernent les partenaires de Reforest. Il faut savoir que Reforest a plus de 9000 partenaires, notamment la Fnac, Asos ou encore TripAdvisor. L'extension détecte la visite chez le partenaire et hop, quelque part dans le monde, on plante un arbre automatiquement. Le meilleur, c'est que ça crée de l'emploi dans le même temps. Pour rendre l'usage encore plus ludique, chaque utilisateur possède son propre compteur d'arbres au-dessus à droite. Là, je ne sais pas si vous avez Adblock, et c'est juste à côté. Et on peut savoir combien d'arbres on a planté depuis le début. L'extension est totalement gratuite car ce sont les sites partenaires qui reversent une commission à Reforest pour la plantation d'arbres. Le dérèglement climatique est principalement dû à l'excès de CO2. Une des solutions les plus efficaces pour les stocker cet excédent, c'est justement de planter des arbres. Reforest.com, je l'ai installé, c'est tout simple, ça mange pas de pain et ça plante des arbres. Allez, on part au pont Montvert dans un instant. Mais ils seront en concert le 9 octobre prochain pour l'ouverture de la Jeunette Verte. On écoute tout de suite les frères Jacquard.
Carlos Adamo, Serge Lama, Annie Cordy, Mouskouri, Nana, Rika Zara et Barzotti, Shela. Demis Roussos, Avec sa gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et ses cheveux aux quatre vents. Avec ses yeux tout délavés, qui lui donnent l'air de rêver, lui qui ne rêve plus souvent. Carlos Adamo, Serge Lama, Annie Cordy, Mouskouri, Nana, Rika Zara, Barzotti, Shela, Demis Roussos, Dalida. Tu vois pas qu'il en manque un là? T'as pas vu le plus beau de tous les chanteurs barbus? Tu vois de qui je veux parler? 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 Toi de qui je veux parler, Moustaki. Ah oh, Georges, avec ta gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec. Et tes cheveux
ferons de chaque jour toute une éternité d'amour. Et nous aimerons en mourir.
Carlos Adamo, Serge Lama, Annie Corbi, Mouskouri, Nana, Rika Zara, Barzotti, Sheila, Temis Roussos, Dalida.
Tu vois pas qu'il en manque un là?
T'as pas vu
le plus beau de tous les chanteurs
barbu?
Tu vois de qui je veux parler? 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 Moustaki!
Oh oui, 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 oui! Bonne réponse! Oh, j'adore, j'adore ce jeu! Il s'agit bien de lui, oui! Moustaki! Oh, c'est pas du vrai!
Alors on est en compagnie de Gérard. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Donc c'est toi qui est donc le grand gourou de l'association Ivoire, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette association pour des gens qui ne connaîtraient pas du tout?
Alors Ivoire est une association essentiellement alsacienne, donc elle est locale, donc vous pouvez difficilement la connaître. L'objectif d'Ivoire est d'aider les aveugles, c'est l'objectif principal, d'avoir la vie la plus normale possible. Et l'un des gros problèmes de la cécité, c'est les déplacements. Il faut savoir que seuls 5% des aveugles se déplacent de façon autonome. Et je pense que c'est un des problèmes majeurs, c'est le déplacement de l'aveugle. Et donc c'est l'objectif premier de Ivoire, aider les aveugles dans leurs déplacements.
Et vous avez créé une application du coup récemment. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette application?
Oui, on a surtout financé, je ne l'ai pas créé parce que c'est le professeur Farsi, le professeur René Farsi, qui est à l'origine, qui est le chercheur qui a développé cette application. OpenWay, donc c'est le nom de l'application, est une application que l'on installe sur Android ou sur Apple. C'est une application qui utilise tous les éléments qui se trouvent dans les téléphones de dernière génération. Ce sont des algorithmes qui utilisent la boussole, l'altimètre, le podomètre, tout ce qui se trouve dans ces téléphones de nouvelle génération, et permet à un aveugle de se déplacer point par point sur un parcours préalablement numérisé.
C'est-à-dire qu'il y a une formation à l'avance, c'est bien ça?
Donc, je reviens un tout petit peu en arrière. C'est une application, il existe des GPS pour se déplacer en ville, mais à ma connaissance, OpenWay est la seule application qui permet à un aveugle de se déplacer en pleine nature, tout seul, de façon autonome. C'est ainsi qu'il y a 10 ans, je suis allé, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques, du Puy-en-Velay à Compostela, de façon autonome sur un parcours préalablement numérisé. J'ai oublié la question.
Comment ça fonctionne du coup? Parce qu'une application, a priori, quand on ne voit pas, c'est difficile d'utilisation. Quoi.
Oui. Donc le principe est toujours de rester sur le chemin, comme c'est le principe pour tout randonneur. Seulement donc, il y a un certain nombre de points qui sont numérisés, c'est-à-dire j'ai la longitude et la latitude du point. Donc il y en a globalement sur un parcours comme ceux qu'on fait, il y en a à peu près tous les 40-50 mètres, il y a un point longitude-latitude. Et grâce à la boussole, et toujours en restant sur le chemin, l'application me dit le point suivant se trouve à midi. Donc à midi, c'est comme le cadran d'une montre. À midi, c'est droit devant moi. À 3 heures, ça se trouve à 90 degrés sur ma droite. À 9 heures, 90 degrés à gauche. 6 heures, c'est derrière moi. Et donc, j'avance de point en point en tenant compte de la boussole, de la distance de mon point. Et je passe comme ça de point à point. Et c'est comme ça que tu peux faire 100, 200, 300 km, toujours en restant sur le chemin et allant de point en point.
Donc le but, c'est vraiment de permettre à des gens qui voient mal ou pas du tout de faire de la randonnée, quoi.
Voilà. Alors, moi, c'est surtout aussi, donc, il y a beaucoup de malvoyants qui voient encore relativement bien, je pense, personnes un peu plus âgées qui ont ce qu'on appelle la DMLA, qui n'arrivent plus à lire de cartes, qui n'arrivent plus à lire les panneaux indicateurs, de nouveau retrouver le plaisir à randonner. Et c'est l'objectif principal, c'est de redonner de nouveau envie à ces gens de se déplacer de façon autonome. Et c'est un véritable... Parce que quand on est malvoyant et qu'on est dépendant, c'est vrai que la dépendance est quelque chose de difficile. Il faut toujours avoir quelqu'un qui donne le bras. Et de retrouver une certaine autonomie, ça devient un véritable plaisir.
Maintenant que cette application est disponible, elle est gratuite d'ailleurs, il faut le préciser.
Elle est gratuite, ouais.
Du coup, maintenant qu'elle est en ligne, j'imagine que vous l'avez utilisée. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat ?
Ah bah, je l'ai utilisée, je l'utilise régulièrement. Et puis, grâce à vos expériences, comme sur ce chemin, on améliore régulièrement encore cette application. Et plus il y aura d'utilisateurs, et plus elle sera performante. Parce que l'objectif, maintenant qu'on a cette application qui sera disponible sur l'Apple Store et la Play Store, eh ben, c'est qu'il y ait le plus grand nombre qui l'utilise. Et c'est pour ça, je veux dire qu'ici, dans les Cévennes, que les gens de l'association de Stevenson se sont mobilisés autour de ce projet. J'espère que ça fera école et qu'il y aura de plus en plus d'utilisateurs, pas uniquement des Cévenols, mais des gens un peu partout, qui viendront ici et qui vont acquérir de nouveau de l'autonomie et qui auront de nouveau du plaisir, parce qu'ils acquériront une technique, d'avoir plus d'autonomie et de retrouver le plaisir de se déplacer et de randonner.
A priori, avec cette application, on peut faire le chemin de Stevenson, il y a d'ailleurs une partie qui a été réaménagée, si j'ai bien compris.
Le chemin n'a pas été réaménagé. Si vous voulez, globalement, le chemin qu'on utilise, c'est 80% du chemin de Stevenson. Mais il y a des passages qui sont difficiles. Donc, grâce à Julien Travier, accompagnateur de montagne, on a trouvé d'autres parcours. On prend par exemple à un moment donné le chemin utilisé par les ânes. Parce que le principe de ce chemin, c'est qu'un malvoyant puisse le faire de façon autonome. Ça, c'est l'objectif. Et donc, on a trouvé des variantes qui sont, mais qui, à mon avis, n'altèrent ni la beauté, ni, comment on va dire, une performance. Parce que c'est vrai que de nouveau, sortir de sa zone de confort, de se trouver tout seul sur le chemin, ça demande aussi de sortir un petit peu de sa zone de confort. Mais une fois qu'on l'a fait, on est extrêmement content et ravi de l'avoir fait.
Et est-ce qu'on peut faire d'autres sentiers que Stevenson, du coup, avec cette application ?
Oui, évidemment, il y a d'autres... je pense à beaucoup d'autres sentiers de randonnée. À mon avis, oui, tout à fait, c'est possible. Mais il y a des GR qui, de toute façon, ne seront pas possibles parce que ça atteindra la limite. Je pense, par exemple, au GR20 qui traverse la Corse et qui, même pour quelqu'un qui y voit, est très difficile. Et à mon humble avis, et j'en suis même 100% sûr, est tout à fait impossible pour quelqu'un qui voit mal de le faire en toute autonomie.
Oui, il faut quand même que ce soit adapté parce qu'une personne seule, ça reste compliqué dans tous les cas.
Ça reste compliqué et il y a des passages, par exemple, sur chemin de Stevenson qui, pour un aveugle, de façon autonome, sont absolument, à mon avis, impossibles. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces variantes.
Et c'est 20% du chemin qui a été modifié qui a été...
Oui, à la louche, 20%, mais donc l'esprit du chemin, il reste entier. Et ouais, globalement, 20%, je sais pas, les unités, je sais pas, il y en a peut-être 22, 23, mais je sais. Globalement, 20% qui a été modifié et rallongé un petit peu aussi.
D'accord, et ben merci Gérard.
Et ben merci à vous et j'espère que on se reverra pour les premiers stages qu'on va effectuer de prise en main d'OpenWay qu'on organisera avec un certain nombre d'hébergeurs l'année prochaine en début de saison.
C'est à quelle date du coup ? Vous avez des dates déjà ?
On n'a pas des dates, ça sera le printemps prochain. Voilà, ben, au plaisir.
Et ben bonne soirée à vous.
Merci.
Merci Corto. Allez, on parle de la Ligue de l'Enseignement. Dans un instant, on écoute d'abord Chan Chan de Compay Segundo, ici interprété par une flopée de musiciens à travers le monde, Playing for Change. Rejoint en studio Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Ah ben voilà, salut Corto, bonjour.
Bonjour.
Voilà.
C'est mieux.
Les aléas du direct, merci d'être avec nous. Tu es secrétaire général de la Ligue de l'Enseignement ici en Lozère et Guillaume est là avec nous. Toi, tu es secrétaire général adjoint. Alors, la Ligue de l'Enseignement, la première question va être assez simple, quoique, c'est quoi ?
Ah ben, c'est d'abord un mouvement d'éducation populaire qui est né en Lozère en 1948, exactement. Et qui est en fait l'émanation d'un mouvement plus qui est national en fait, qui s'appelle la Ligue de l'Enseignement, centre confédéral, qui est né lui en 1866 à l'initiative de plusieurs personnes, notamment de Jean Massé, qui était un député, mais que aussi quelqu'un qui a créé les bibliothèques un petit peu partout en France, qui a initié énormément de mouvements. Voilà. Donc c'est un des mouvements fondateurs de l'éduc pop, qui a aussi œuvré sur les lois 1901, séparation de l'Église et d'État en 1905, les lois sur le sport, enfin, etc., énormément de choses, et puis qui a beaucoup œuvré aussi pendant la guerre. Et le général de Gaulle a même dit que sans la Ligue, la France ne serait plus une république.
Alors justement, on va parler d'éducation populaire, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, et qui est un peu flou peut-être pour certains, certaines. C'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par éducation populaire?
Alors, en fait, c'est un peu difficile de le définir comme ça, parce que plus qu'une... on va dire qu'une action, c'est plutôt un concept général. Jean Massé avait plutôt le loisir de dire que c'était de fabriquer des citoyens, des citoyennes, et faire des gens, du peuple en fait, les acteurs de leur temps. Donc c'est de fabriquer de la citoyenneté au quotidien avec des gens qui prennent des responsabilités, qui s'engagent, et c'est pour ça que la Ligue de l'Enseignement, c'est d'abord une fédération d'associations. Donc c'est à peu près 30 000 associations, 2 millions de membres à peu près, un peu partout en France, dans énormément de domaines, hein, puisque au tout départ c'était de l'accompagnement de l'école de la République en 1866, pour que l'école puisse se mettre un petit peu partout sur le territoire, puisqu'avant l'école c'était le clergé qui dispensait de l'enseignement. 1866, les lois de Jules Ferry font que on donne aux collectivités locales le soin de créer des bâtiments. C'est pour ça que souvent on a école République française avec à côté la mairie, puis à côté le bâtiment de l'école publique dans les petites villes et les petits villages. Et donc l'école est construite, l'État met à disposition des enseignants, et la Ligue se construit autour de ça pour faire en sorte que on puisse avoir un accompagnement et un accueil des enfants dès le plus jeune âge. Donc de ça vont naître par exemple les associations La Tasse de Lait, que vous devez connaître un petit peu, les sociétés du sou, puisqu'en fait l'école n'est pas une entité juridique à part entière, donc ne peut pas prélever de l'argent, donc n'a pas les moyens de mettre en œuvre des actions directement. Elle passe par le biais d'une association périscolaire ou scolaire.
Par exemple, les associations de parents d'élèves.
Voilà, les APE, associations de parents d'élèves, la Tasse de Lait pour les écoles maternelles. Tout ça, c'est né en fait qu'on apportait des sabots à l'époque, il y a 1866, une tasse de lait aux petits le matin, des jus de pommes, des crayons, des tabliers. Donc ça a démarré comme ça. Et ça s'est développé autour d'actions qui étaient autour du livre et de la lecture, qui était autour de la musique, qui était autour de la culture, de l'art, ce qu'on appelait les fameux landis dans les années 70, ces grands défilés où les écoles défilaient avec des drapeaux, il y avait du folklore, des danses, etc. dans les rues. C'était une espèce de représentation un petit peu de cette éducation qui était très populaire. Le sport est venu dans les années 30-34 avec la création de deux entités juridiques qui sont l'UFSEP dans le temps scolaire. L'UFSEP, c'est l'union de l'enseignement, l'union sportive de l'enseignement du premier degré. Donc c'est la partie sport de l'éducation nationale. C'est un établissement qui dépend bien sûr de la Ligue de l'enseignement en termes d'infrastructure, qui est une entité juridique à part entière, mais qui est le seul organisme à pouvoir travailler dans l'école pendant le temps scolaire. Normalement, il n'y a aucun autre organisme qui a cette habilitation. Donc, il y a des conventions avec l'État depuis très très longtemps, depuis les années 34-40. Et ça permet comme ça de développer ce qu'on appelle tous les parcours EPS dans le temps scolaire avec les enseignants. Donc ça, c'est la partie sportive. Après, il y a la partie hors temps scolaire qui est l'UFOLEP, avec les courses de moto, la gym, l'enduro. Enfin, il y a énormément de choses autour du sport. Voilà.
Les associations justement qui adhèrent à la Ligue et qui travaillent un peu dans tout ce que tu viens de dire, est-ce que c'est pas se substituer à ce que devrait faire l'État normalement?
On pourrait le voir comme ça. L'État républicain n'a pas toujours les moyens de ses ambitions, donc quand il y a un vide juridique, la loi 1901 a été créée pour ça, c'est-à-dire faire en sorte que les gens puissent par Louis-Philippe, l'arrêt justement à la fois de la presse et puis des regroupements d'individus. En 1901, on permet ce regroupement, et surtout on permet de pallier par la création d'un objet social à des manquements de l'État. Alors des manquements, on va pas dire forcément des manquements, parce que est-ce que l'État républicain doit être partout? Après, on pourrait le voir comme ça, mais à ce moment-là, il faudrait que les gens payent énormément d'impôts. C'est un choix de société, hein. La Finlande a fait ce choix-là. Ça s'avère être un très bon choix, puisque c'est le meilleur niveau de vie au monde et la meilleure éducation, apparemment. On n'a pas fait ce choix-là en France. Donc, l'objet social d'une association, c'est souvent un objet qui permet, en fait, d'être dans une niche, ce que peut pas faire l'État ou ce que peut pas faire les collectivités. En fait, c'est remplacé par une structure associative qui n'est pas lucrative normalement et qui remplit une mission de service public. Voilà. Ça s'est dégradé, c'est vrai en France. Ça s'est dégradé depuis une quinzaine d'années quand on a commencé à faire les appels à projets. Parce qu'en fait, une association a été financée par les collectivités locales, par l'État, par etc. Quand on a commencé à faire des appels à projets, en fait, on a mis les associations en compétition. La subvention permettait de financer l'objet social. Par exemple, une association de personnes âgées qui se retrouvent pour faire de la lecture, des animations dans un EHPAD, c'est un objet social fort et de société. On donne une subvention pour aider cette association à mettre ça en œuvre. On fait de moins en moins ça, on a supprimé beaucoup les subventions et on a mis en place les appels à projets où on dit, ben voilà, on vous propose de développer telle action sur tous les EHPAD du coin. Du coup, on va être 3-4 associations, on va se tirer la bourre pour répondre à cet appel à projet. Du coup, ben à la fin, il n'en reste plus qu'une, quoi. Donc on a appauvri, peut-être inconsciemment d'ailleurs, par le politique, hein, le réseau des associations. Et l'engagement aussi des bénévoles. Ouais.
Du coup, le rôle, entre guillemets, de la Ligue de l'enseignement, c'est de fédérer tout ça?
Oui, tout à fait. Donc, c'est de fédérer à la fois les associations, leur donner un cadre, on va dire, assurance et juridique derrière, qui leur permet d'avoir une activité, d'être couvert. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas faire n'importe quoi. Voilà, les gens ont besoin d'avoir une couverture et une protection. D'encadrer, de les aider à développer des programmes et des projets, de redonner du sens à leur objet social, d'aider aussi à la création d'associations, donc par le biais des associations juniors, de favoriser l'éducation partout où ça peut se faire, de fabriquer des citoyens. Voilà, la Ligue, c'est un petit peu ça. Alors c'est vrai qu'on utilise, nous on a à peu près 5 secteurs d'activité, 2 dont je vous ai parlé qui sont le sport, donc hors temps scolaire avec l'UFOLEP associatif. Donc c'est une délégation qu'on appelle sport affinitaire et pas délégataire. La différence, c'est par exemple le foot, la 3F, c'est du délégataire par rapport au foot. Nous, on est affinitaire parce qu'on est pluriel, en fait, hein. On fait à la fois du sport, de la moto, de l'enduro, de la gym, etc. La pétanque, du VTT, enfin, etc. Donc, on est sur ça. Après, on a un secteur culturel qui est très important, qui a développé... Alors, sur la culture en Lozère, qu'est-ce que c'est, par exemple, les Duc Pop? Ça a été, par mes prédécesseurs, de développer tout le travail autour du livre et de la lecture. C'est aussi notre histoire avec Jean Massé, hein, les bibliothèque municipale. Donc on a développé, par exemple, il y avait des bibliobus qui tournaient partout en Lozère. Donc on avait des espèces de petites camionnettes à l'époque, des C15, etc., avec des malles de bouquins qui allaient d'école en école et qui, avec des prêts de livres, hein, voilà. Ça donnait lieu après à la médiathèque départementale de Lozère. Donc ça a été repris par le département qui en a fait une structure. Pareil sur l'école de musique. Ça s'appelait Euritem, l'école de musique, avant de s'appeler l'école de musique départementale, le DML. C'était Euritem, une association qui faisait la promotion de la musique avec des bénévoles et des profs qui venaient donner des cours. Ça a donné lieu à l'EDML. Sur le cinéma Cinéco, avant Cinéco, on tournait beaucoup partout, parce qu'il y avait un réseau de cinéma éducateurs. Voilà. On prenait des films sur Montpellier ou sur Lyon. Et puis, on diffusait sur tout le territoire des films en 16 mm et en 35 mm à la fin. Voilà.
Donc c'est pour la culture. Et tu disais qu'il y avait 5 secteurs et les 3 autres, c'était quoi?
Après, c'est tout ce qui est vacances, loisirs pour tous. Donc là, c'est tout ce qui est formation BAFA, centre d'accueil, domaine du bec de jeu avec des classes de découverte. Et de la formation, bien sûr, hein, autour de ça. Donc, c'est très important. Après, ce qui chapeaute tout ça, c'est un secrétariat général qui, lui, va donner les moyens humains, financiers. et de structuration autour d'un projet fédéral qui rassemble toutes ces idées, toutes ces stratégies et ces directions. Donc là, par exemple, on a développé un cinquième secteur qui est la solidarité, sur lequel on a été un petit peu amené par la préfecture hein, en 2016 à accueillir des réfugiés. Donc on a commencé par cette première étape, l'accueil de réfugiés qui venaient de Calais. Et aujourd'hui, on a un centre d'accueil au chapitre où on accueille des mineurs non accompagnés qui viennent de différents pays et qui sont déclarés mineurs. Donc voilà, on fait ce travail-là.
Oh, combien important en ce moment, surtout quand on voit que les OQTF augmentent en Lozère. Ne nous mettons pas de mauvaise humeur. Alors, vous mettez en place énormément d'actions de toutes sortes. Les citer, c'est peut-être un peu présomptueux, mais d'après ce que j'ai pu lire, vous essayez de vous inscrire dans une démarche quand même de développement durable et de notamment dans les transports, dans la question de gestion des déchets, dans la dématérialisation, etc. C'est une priorité pour vous.
Oui, ça l'a toujours été. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu. Enfin, depuis très très longtemps, on a monté un agenda 21 avec Nathalie Fournier à l'époque, qui nous a pas mal aidé là-dessus. Et je la remercie parce que ça a structuré un petit peu notre activité. Après, on a pris très tôt des décisions de mise en commun, de partage, de travail sur la question des déchets, sur l'énergie, puisqu'on a aussi un travail sur Bec de Jeu qui est important, sur le cas de découverte autour de l'énergie.
Ah, bah, le siège
voilà.
Du jeu.
Et oui, c'est une préoccupation. C'est vraiment une préoccupation chez nous.
Alors, tout ça, ça demande des moyens humains et financiers. Mmh. Combien vous êtes à bosser pour la Ligue ici en Lozère et forcément, financièrement, ça représente combien?
Alors aujourd'hui, la Ligue, dans tous ses secteurs d'activité, c'est à peu près 28 emplois. Voilà, autour de 26 équivalents temps plein, mais 28 emplois. Un budget autour de 2 millions d'euros. Voilà. Avec à peu près 75 000 journées d'animation par an. Voilà, avec 147 associations, un peu moins de 6500 adhérents sur tout le département, école comprise bien sûr, puisqu'il y a des enfants qui sont scolarisés, il y a l'UCEP, l'UFOLEP, la culture, voilà, il y a beaucoup de... Donc voilà, c'est une entreprise d'économie sociale hein, de toute façon. Aujourd'hui, ça s'inscrit comme ça. Le taux de financement en termes de subvention, il est à peu près de 20%. Entre 20 et 22%, voilà, le reste, ben, c'est ce qu'on fabrique, puisque on a des centres d'accueil, on a une activité quand même aussi pour financer tout ça, quoi, qui est très importante. Voilà, après, c'est complexe à gérer. On a fait des choix il y a quelques années où on a été très très mal financièrement, mais comme beaucoup d'associations, hein, parce que c'est très difficile d'une année sur l'autre à gérer. Les appels à projets nous ont pas toujours été favorables, donc c'est compliqué. On répond à des appels d'offres sur les collectivités, sur les mairies à l'extérieur, Marseille, Paris, Lyon, enfin voilà, Martigues, etc. Donc c'est complexe de...
T'appelles à toutes les portes, quoi. Il faut.
Ben ouais, il faut. On essaie de développer des concepts et on se remet beaucoup en question. Tout le temps sur nos pratiques. Alors à la fois c'est très déstabilisant et à la fois c'est nécessaire. La Ligue c'est un outil d'expérimentation. On peut pas, enfin par exemple, je vais vous prendre plusieurs exemples. On a créé en 93 Festival de la Petite Roulotte qui a duré 25 ans. On a fait énormément de choses. On s'est arrêté, on l'a transformé. On a fait beaucoup d'expérimentations. Là on a fait un travail avec les scènes croisées sur les belles histoires. On va sans doute l'arrêter, on va repartir sur autre chose, un autre regard pour la petite enfance. On est sans arrêt en train de se poser la question de l'intérêt de l'outil et pas de se dire on a un outil et quoi qu'il arrive, on continue. C'est pareil sur les aériennes qu'on a créées en 2017, qui était peut-être un événement trop tôt par rapport au contexte aujourd'hui, qui est nécessaire sur notre territoire. Mais qui a pas trouvé son public, donc on l'a pas continué. On a créé 48e de rue quand même en 2005, voilà.
Qui est ce week-end d'ailleurs.
Voilà, qui est ce week-end.
Donc l'actu, c'est un truc.
Donc j'en profite pour le dire, c'est du 9 au 11. Il faut venir à Mende, c'est un bel événement. Donc ces événements qu'on a créés, qu'on a confiés après et que maintenant ils vivent un petit peu plus tout seuls pour nous permettre d'aller sur d'autres stratégies, d'autres territoires. Par exemple, comme l'accompagnement de structures ou de compagnies. Et ça, c'est cette remise en question. C'est un outil qui nous appartient pas, en fait, à la Ligue. Nous, on est de passage, hein. Moi, je suis un enseignant qui est détaché. Guillaume est aussi un enseignant qui est mis à disposition. C'est différent, mais c'est aussi un enseignant. Après, la Ligue, c'est un outil pour les gens, quoi. Ça nous appartient pas. Donc, on est de passage. On essaie de mettre en œuvre des politiques, de répondre à des sollicitations et des besoins sur les territoires, c'est lié à la politique publique aussi, c'est lié au gouvernement qu'on a, c'est lié aux orientations des gens, aux besoins. Donc faut être vraiment en phase avec ça, faut se reposer les bonnes questions.
Ça, tu le disais il y a un instant, Guillaume, toi tu étais directeur et instit à Hispaniac, tu as rejoint la Ligue il y a quoi, 2 ans maintenant ?
Non, cette année.
Cette année, tout neuf. Ouais. Et justement, donc, tu as fait deux différences entre détaché et...
MAD. Un détaché, en fait, il est prêté par l'Éducation nationale sans le salaire.
Donc ça, c'est toi ?
Ouais, c'est moi. Et après, MAD, il est presté par l'Éducation nationale avec son salaire.
Donc ça, c'est Guillaume.
Voilà. Donc du coup, pour compléter ce qu'il disait aussi, il y a aussi d'autres choses du coup qu'on fait sur la Ligue. Je prends pour le domaine de bec de jeu. Le bec de jeu, par exemple, c'est aussi un outil de production au service du territoire, par exemple pour les cantines de certaines écoles. Mm-hmm. Où on produit les repas des cantines de Roufiac, Balciège, je crois. À un moment, Barjac, on faisait. Voilà. Et donc, moi, mon boulot au niveau de bec de jeu, il va surtout consister à travailler autour de l'EDD, donc l'éducation à l'environnement, développement durable, auprès des scolaires. Et donc, des fois, on intervient aussi, il n'y a pas que les classes de découverte, il y a aussi des interventions en classe. Donc, hier, par exemple, j'étais à l'école de Chabry. Voilà, qui sont gratuites pour les écoles du département.
C'est-à-dire que vous proposez ce service aux écoles.
C'est ça, en gros c'est ça. Ou alors les écoles, très souvent, Bec de Jeu, c'est quand même une institution dans le département. C'est vrai que beaucoup d'enseignants connaissent. Moi, avant même d'intégrer la Ligue, je connaissais bien. Et très souvent, les enseignants téléphonent en septembre, octobre. Oui, voilà, je veux faire un projet sur ci, sur ça. Est-ce que vous pouvez nous aider d'une façon ou d'une autre? Et moi, mon boulot, c'est de filer un coup de main aux enseignants qui en ont besoin. Voilà.
Il y a une convention de moyens, en fait, avec le ministère, qui est signée par le DAZN, hein, sur le plan local, et qui détermine un certain nombre à la fois de moyens et d'outils. Guillaume, il doit développer pour l'éducation nationale un certain nombre d'outils autour notamment des PCI, du patrimoine culturel immatériel. Donc on a des rapprochements, il y a un gros travail qui est fait, des mallettes pédagogiques sont mises à disposition des écoles. C'est aussi un centre d'accueil pour des séminaires, pour des conférences, pour des moments de travail avec les enseignants. Donc c'est vraiment un outil qui est là aussi au service de l'éducation nationale. La Ligue éducation nationale, c'est un partenariat qui est extrêmement ancien, vieux, mais qui en même temps s'est nourri au fur et à mesure. L'éducation nationale a besoin de la Ligue sur tous les territoires, et la Ligue a besoin de l'éducation nationale. Voilà, c'est notre maison mère un petit peu. En même temps, c'est pas non plus celle qui nous donne notre direction et notre réflexion. C'est vraiment une entité autonome, c'est une ONG, hein, qui a sa propre philosophie. Son engagement qui est remis et donc son projet fédéral. Voilà.
Alors, la Ligue chapeaute la FOL, la Fédération des
C'est la même chose.
Mecs. C'est la même chose.
La Ligue, devenue la Ligue.
Et j'ai compris.
En fait, la Fédération des œuvres laïques, c'était l'ancien nom. Voilà. Parce que au niveau national, le siège national s'appelait la Confédération des œuvres laïques. Et ça a donné les fédérations des œuvres laïques. Mais comme en France, par exemple, dans le Gard, c'était la FALEP, la FAOL dans l'Aude, Fédération Audoise des œuvres laïques. Chacun avait son nom, quoi. Donc ça, c'était pas très lisible. Donc il y a quelques années, une dizaine d'années maintenant, la décision de normaliser que toutes les fédérations s'appellent Ligue de l'enseignement de Lozère, de l'Essonne, du Val d'Oise, du Gard, de l'Hérault, etc.
Très bien. La FOL, on dit juste encore la FOL, c'est nostalgique, quoi.
Oui, bon, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus important, quoi.
C'est sûr. Alors, tu parlais tout à l'heure, justement, des formations que vous proposez, notamment au BAFA. Ici, à Florac, par exemple, il manque un animateur au foyer rural pour cet été. Est-ce que vous sentez que c'est quoi? Ça serait un désintérêt pour le monde de l'animation ou c'est juste pas de bol?
qui manque un animateur sur Florac.
Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, il y a un petit désintérêt peut-être des jeunes d'aller justement vers l'éducation ou vers.
Oui, je crois que c'est sa très mauvaise réputation en termes notamment de moyens financiers, de paiement. C'est-à-dire qu'on a pendant très longtemps, on a imaginé que ça pouvait être un moyen de se faire un peu d'argent l'été. En fait, faut comprendre que le bénévole la personne qui s'engage dans la formation BAFA, c'est d'abord une formation de citoyen. Sans l'oublier, donc c'est du volontariat. C'est pas un vrai contrat de travail. Mmh. Voilà. Que quand on vient travailler, surtout quand on a 17 ans, on est mineur, on apprend la vie en société, on apprend à devenir responsable parce qu'on a des petits avec nous, hein, des plus petits, des plus jeunes ou des ados qu'on nous a confiés, que les parents nous ont confiés. Donc c'est une responsabilité, hein, civile aussi. Et du coup, c'est cette formation qui est importante. Les syndicats ont vu là-dedans une façon déguisée de faire de l'argent. Je le fais un peu rapide, c'est pas que ça, mais du coup, on a quand même beaucoup cassé cette dynamique en France il y a quelques années, avec notamment les temps de récupération. Donc ça voulait dire que pour un jeune, c'était compliqué de se retrouver 24 sur 24. Il y avait des temps de récupération. Donc en fait, on a cassé un modèle économique qu'on appelait le contrat d'engagement éducatif. Mmh. Qui est un peu barbare tout ça, mais du coup c'était une exception au droit du travail en fait, hein. Parce que derrière il y avait cette notion de volontariat, d'engagement. Donc en fait on rémunère pas à l'heure, hein. C'est un forfait de entre 40 et 50 euros par jour. Parce que derrière il y a aussi de l'alimentation, il y a de l'hébergement, il y a du développement personnel. C'est pas un vrai travail comme on pourrait trouver dans une boulangerie ou au McDo, tout ça, ça a rien à voir, hein. C'est vraiment un engagement pour fabriquer des citoyens. Donc c'est un engagement qui dure 2-3 ans avec trois formations, une formation théorique pratique l'été de 15 jours, et puis après une formation plus approfondie sur une thématique, sur un domaine, voilà. Alors le désintérêt des jeunes, je pense qu'il y a l'appât du gain qui fait que comme c'est pas bien rémunéré, ben on est moins intéressé. Donc c'est un vrai engagement, voilà. Après, je crois que les pouvoirs publics ont pas fait ce qu'il fallait pour que ça devienne au fil des ans soit bien valorisé. Le problème, c'est que bah, les parents qui mettent leurs enfants dans une colonie de vacances, quand ça coûte 500 ou 600 euros la semaine, je vois pas comment, au bout d'un moment, on peut arriver à financer tout ça, quoi. Voilà. Il y a des coûts, il y a un vrai coût. Voilà. Et ce modèle, il est mis à mal depuis de très nombreuses années.
Puisqu'on parle des jeunes et d'éducation populaire 2020-2021, ça a été extrêmement dur pour eux. Alors, est-ce que pour vous et vos équipes, ça a été plus dur de travailler cette année, de mettre en place des projets? Et justement, qu'est-ce que vous avez pu proposer aux jeunes pour les sortir de ce marasme?
Ça a été très compliqué, ouais, de travailler avec des actions qui étaient prévues, qui s'annulaient au fur et à mesure. On a essayé de maintenir le cap. Alors c'est vrai qu'on a fait pas mal appel à l'activité partielle, hein, notamment au domaine du bec de jeu, sur le personnel, puisque on n'a pas eu l'autorisation d'accueillir des classes, malheureusement.
Ah si, mais sans nuitée.
Ouais.
Donc voilà, c'est un peu.
Donc les colos ont été annulés, et puis beaucoup de classes qui venaient de l'extérieur ont été annulées. Donc c'est vrai que bec de jeu est resté fermé quasiment un an et demi là. Donc ça a été difficile. Donc pas beaucoup de recrutement. Sur le reste de l'activité culturelle, ben on a préféré laisser. Alors ça c'est un cri du cœur, quoi. Moi en tant que laïc, je trouve que c'est une aberration d'avoir laissé ouvert des églises. Et j'étais pas contre le fait de les laisser ouvertes, hein, mais de fermer les salles de cinéma, les théâtres, les musées, quoi. C'est incompréhensible dans un pays laïc de faire ça. C'était parce que quand on est dans une église, on est dans le même rapport scène salle que dans une salle de spectacle, et pour moi c'est encore incompréhensible qu'on ait pu faire ça.
Je crois que t'es pas le seul.
Ah ouais, mais c'est vraiment un cri du cœur, quoi. Je comprends toujours pas, mais je vais lutter contre pour que ça se renouvelle pas, parce que je trouve ça aberrant. Voilà.
Tu m'étonnes. Quels sont les projets de la Ligue de l'enseignement là pour la fin de cette année et puis pour 2022?
Mais il y en a beaucoup.
Ça, j'imagine. Voilà.
Déjà, redémarrer avec Guillaume et son équipe avec deux jeux. On a pas mal d'accueil clash, mais je vais les laisser peut-être en parler.
En fait, rapidement, donc en fait, avec deux jeux, c'est connu dans le département pour avoir eu toujours une activité, on va dire 50-50, entre le sport et l'environnement. Donc ça, ça a toujours été une classe qui venait, faisait par exemple une matinée VTT et une après-midi autour de la faune dans la Vogne ou des choses comme ça. Nous, l'idée, c'est plutôt de, pendant un an, on a cherché un petit peu dans le département tout ce qu'il y avait de, comme patrimoine artisanal, architectural, historique, du savoir-faire lozérien, tout ce qu'on pourrait montrer aux jeunes pour qu'ils apprennent. Avant de protéger l'environnement, il faut apprendre à l'apprécier. Et comment je peux apprécier mon environnement? Qu'est-ce que je peux apporter? Et donc, du coup, on a mis en place pendant un an, donc quelque part, ce Covid, il a aidé à faire ça, à nous laisser du temps pour faire ça et pour développer des partenariats avec différentes structures, différentes associations, de manière à ce qu'avec deux jeux, on puisse proposer aux enfants à découvrir le patrimoine lozérien, mais aussi bien aussi pour les jeunes du département que pour d'autres. Mmh. C'était le gros du travail.
Après, sur le plan sportif, l'UCEP redémarre son activité sur l'année, donc avec un programme annuel comme il faut. Pareil sur l'UFOLEP, des rencontres sportives, de l'aide à des associations. Et puis après, sur la culture, un programme qui va s'adresser à la toute petite enfance. Ça s'appelle Un autre regard, les belles histoires, au mois de novembre. Pendant 15 jours, on va essayer de monter une énorme expo à Mende, avec à la fois des ateliers de pratique artistique, des rencontres autour de l'art et de l'écriture, du livre, pour la petite enfance, les EHPAD, les publics empêchés, beaucoup, un gros travail là-dessus. Voilà, des tournées de spectacles, la saison jeune public de la ville de Mende. Donc il y a, voilà, ça repart, ça foisonne, un service solidarité sur lequel aussi on a créé un nouveau lieu sur Langogne, qui s'appelle Calipolis, qui est un lieu d'accueil pour les publics défavorisés, voilà, qui se développe bien, qui trouve bien sa place. Voilà, après on fait beaucoup de soutien des résidences, là soutien à des compagnies aussi sur le Transfo, qui est le petit lieu d'accueil qu'on a créé dans nos locaux, voilà, qui permet à la fois travailler, de concevoir, d'écrire, de fabriquer des spectacles, un petit peu tout. On accueille aussi le label Canette, voilà, qui fait pas mal de petites formes, des sessions, voilà, rap. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Des tournages aussi, des petits courts-métrages.
Plein de choses. Ouais. En tout cas, j'ai tout compris sur ce qu'était la Ligue de l'enseignement. Alors, retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur la Ligue de l'enseignement, tous les projets, etc. Et c'est sur folle48.fr, c'est le site internet. Mais évidemment, le lien dans un instant sur notre site internet. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci à vous.
Et merci, Guillaume.
Merci. On parle illettrisme dans un instant. On écoute d'abord le bilan par un groupe du Nord qui s'appelle Les Crieurs de Toi. Je me dis qu'un jour, je vais devoir faire le bilan sur ma vie, les envies que j'avais à 20 ans. Mais ce jour-là, il faudrait qu'il arrive dans pas longtemps avant que mes souvenirs ne s'égarent dans ma mémoire. Les amours, les emmerdes et tout ce qui va avec. Les copains, les copines à 5 sur 2 mobilettes. Insouciant, il paraît que sont les adolescents. Mais on se prenait quand même bien la tête pour trouver des cigarettes. La vie parfois te joue des tours. La vie parfois te joue des tours. Elle t'emmène là où t'avais pas rendez-vous. Mais j'aurais jamais cru que je finirais troubadour. Mais c'est sûrement mieux que Pompiste à Carrefour. Tous ces après-midi à traîner sans vraiment but. Trois copains, deux copines, ça fait 4 plus une chandelle. Ça fait surtout 3 idiots aux hormones tous azimuts. Incapable d'avouer à ces jolies demoiselles. Mais je dois confesser que je me sentais peu concerné par la géopolitique et l'état du marché. À 15 ans, je dois dire que ce qui me tracassait, c'était plutôt les filles, les copains et les soirées. La vie parfois parfois tu joues des tours.
La vie parfois te joue des tours. Elle t'emmène là où t'avais pas rendez-vous. Mais j'aurais jamais cru que je finirais troubadour.
Mais c'est sûrement mieux que Pompissac Chapouet. Genre tu deviens grand même si tu le veux pas vraiment. Sont bien belles tes chansons mais elles paieront pas une maison. Fais pas ci, passe ton bac, hey, c'est moi qui ai raison. Me disait calmement cette conseillère d'orientation. Me voilà revenu sur la route de la raison. Management blablabla des unités commerciales. Et ça vraiment c'est du rêve, ouais je vais me payer une maison. Mais je mettrai pas ma guitare, non, au fond d'un placard.
La vie parfois, la vie parfois, la vie parfois te joue des tours.
La vie parfois te joue des tours. La vie parfois te joue des tours.
La vie parfois
te joue des tours. Elle t'emmène là où t'avais pas rendez-vous. Mais j'aurais jamais cru que je finirais troubadour. Mais c'est sûrement mieux que Pompissac Chalfour. Tu veux faire de la chanson, c'est soit t'assumes ou soit ben tu passes pour un con. Et encore là faut voir si c'est pas ça la raison. Faire ce que tu aimes et laisser la critique pour les cons. Finalement 37 ans, plein de souvenirs et toutes mes dents. J'ai pas suivi la vie de ceux qui savaient mieux que moi. Comment faire ou aller pour réussir ma vie. Et maintenant je les emmerde, voici le bilan de ma vie. La vie parfois te joue des tours. Elle t'emmène là où t'avais pas rendez-vous. Mais j'aurais jamais cru que je finirais troubadour. Mais c'est sûrement mieux que pour plus d'un carrefour.
La vie parfois te joue des tours.
Ah, quel temps pourri, c'est jeudi 9 septembre, le temps parfait pour aller au ciné. Et ça tombe bien parce qu'à Mende, à la salle Urbain 5, il y avait un ciné-débat autour de l'illettrisme. Le film projeté s'appelle Illettré, il a été réalisé par Jean-Pierre Améry, c'est produit par Escassal Film, en partenariat avec France Télévisions. Il est l'adaptation du roman de Cécile Ladjali, et dans ce film, Léo, la trentaine, est illettré. Un secret qu'il porte comme un fardeau, un temps scolarisé, marqué par l'abandon de ses parents, il a presque tout oublié, avec 500 mots pour seul viatique. Un jour, il est victime d'un accident à l'usine où il est ouvrier, un drame causé par son handicap qu'il cachait à tous. Immobilisé, il rencontre sa voisine Nora, infirmière et mère célibataire, passionnée de lecture. Elle va le soigner, découvrir son secret et lui donner l'envie, la force d'apprendre. Mais est-elle vraiment prête à accepter sa différence et Léo à la surmonter ? Le film commence. Il dure 1h30 et est suivi d'un débat sur l'illettrisme animé par plusieurs acteurs locaux dans la lutte contre l'illettrisme. Dominique Jeux, directeur de Greta CFA de Lozère, nous explique pourquoi il avait choisi cette date.
Il y a deux choses. C'était la semaine de l'illettrisme organisée par l'ANLCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc c'est une semaine nationale. Dans toute la France, cette semaine est organisée. Et nous, Greta, avec la région et avec le CRIA, on s'occupe de différents dispositifs de formation, notamment en faveur de la lutte contre l'illettrisme, et on voulait marquer le coup. Donc chaque année, il y a des ateliers à destination des professionnels, soit des conseillers de Pôle emploi, mission locale, ou des associations, Secours catholique, Resto du cœur, qui œuvrent en direction des publics en situation d'illettrisme. Mais on voulait faire aussi une sensibilisation grand public auprès de d'autres personnes qui ne sont pas forcément des professionnels et qui sont sensibilisées par cette problématique.
Mais est-ce que vous savez ce que c'est exactement l'illettrisme ? L'ANLCI, pour Agence Nationale de Lutte contre l'Illettrisme, le définit comme ça. L'illettrisme qualifie la situation de personnes de plus de 16 ans qui, bien qu'ayant été scolarisées, ne parviennent pas à lire et comprendre un texte portant sur des situations de leur vie quotidienne et ou ne parviennent pas à écrire pour transmettre des informations simples. En France, on estime que 7 à 10% de la population est en situation d'illettrisme. Ce chiffre est assez étonnant, on vous l'accorde, mais il faut savoir que l'illettrisme est un terme qui englobe plusieurs types de difficultés.
L'illettrisme, c'est un grand écart entre quelqu'un qui va arriver à lire l'alphabet avec difficulté, mais qui ne sera incapable d'associer les lettres ensemble pour former des syllabes et les syllabes ensemble pour former des mots. Et puis des personnes qui vont lire un texte, mais quand on le questionne après avoir lu son texte, un petit paragraphe, une phrase, ne sait pas ce qu'il a dit, ne sait pas ce qu'il a lu. Donc l'illettrisme, c'est assez ouvert comme concept.
Et on disait qu'on estime ce pourcentage, car c'est pas évident de détecter une personne en situation d'illettrisme.
Alors, chez les enfants, comme on l'a vu au cours du film, enfin après le film plutôt, c'est pas forcément évident, à part le décrochage. Le décrochage scolaire souvent marque bien, montre bien des gamins, des jeunes qui cachent les difficultés qu'ils ont à l'école en étant très souvent absents, en retard, en se faisant exclure de cours par des problèmes disciplinaires. Ils font exprès d'être violents ou agressifs. Et le prof, quelquefois, n'a pas d'autre solution que de sortir l'élève. Ça concerne les enfants. La thématique de ce soir, c'était plus les adultes. Et donc, effectivement, ce n'est absolument pas évident de repérer des personnes en situation d'illettrisme. Parce que, comme on l'a vu dans le film, les personnes ont souvent des stratégies de contournement. Ils cachent par le fait de dire ben, « j'ai oublié mes lunettes, j'ai mon bras en écharpe, est-ce que vous pouvez remplir le papier ? Est-ce que je peux ramener le papier chez moi ? Je le remplirai chez moi, je vous le rapporterai demain. » Donc ce genre de choses. Donc ce n'est absolument pas évident de repérer les personnes en situation d'illettrisme. On commence, comme on l'a vu au débat, on commence de plus en plus à avoir des outils, aussi bien d'aide, des outils de pédagogiques, d'aide à l'accompagnement, donc aussi bien sur la lecture, l'écriture, la compréhension, le calcul, donc des outils pour des adultes. Il ne faut pas croire qu'on prend un livre de CP d'enfants et qu'on peut le faire apprendre à un adulte, parce que les mécanismes ne sont absolument pas les mêmes.
Chaque région a d'ailleurs un organisme pour mettre à disposition des ressources pédagogiques pour lutter contre l'illettrisme. En Lozère, il s'appelle le CRIA 48, Centre de ressources illettrisme et apprentissage de la langue française. Marie Hague, qui est animatrice au CRIA, nous explique plus précisément la mission à laquelle s'attelle le centre.
Alors, un centre ressources, comme son nom l'indique, met prioritairement à disposition de la ressource pédagogique, technique, méthodologique sur les questions d'illettrisme et d'apprentissage du français. Alors, pas forcément directement à destination des personnes qui sont dans l'apprentissage, mais pour tous les personnels bénévoles ou professionnels qui les accompagnent dans leur démarche d'apprentissage ou d'insertion sociale professionnelle. Donc en clair, c'est-à-dire qu'on met à disposition de la ressource pour tous les professionnels de l'insertion, socio-pro, voilà, donc les Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, le secteur de l'intérim, le secteur des chantiers d'insertion, comme le disait Dominique Jeux tout à l'heure, voilà, ou auprès des bénévoles d'associations caritatives ou de collectifs qui interviennent directement, par exemple, pour dispenser des cours de français pour des personnes d'origine étrangère, par exemple. Alors la ressource méthodologique proprement dite, c'est un volet. Et après, sinon, effectivement, on organise des journées ou des demi-journées de formation, d'information sur les thématiques, toujours illettrisme et apprentissage du français, toujours en direction des professionnels ou des bénévoles accompagnants. Et on peut aussi intervenir au sein des structures proprement dites pour répondre à une question typique, enfin, ou spécifique à leur structure sur comment accompagner ou repérer les difficultés, par exemple des personnes accueillies en entretien à Pôle emploi, bien faire la distinction entre ce qui relève plutôt de l'illettrisme ou de l'analphabétisme ou du français langue étrangère, ou aider des bénévoles à monter un atelier de français pour des personnes étrangères, toutes ces thématiques, voilà. Et on a encore un autre volet d'intervention qu'on a appelé cartographie, où on essaye de recenser sur la Lozère toutes les offres de formation linguistique, par exemple pour les situations d'illettrisme ou pour l'apprentissage du français, de recenser tout ce qui se passe pour être un relais d'information entre ceux qui cherchent et ceux qui proposent.
Elle revient aussi sur le pourcentage d'illettrisme en France qu'on évoquait tout à l'heure.
En fait, la dernière étude, elle date de 2011, si je ne me trompe pas, donc ça fait déjà 10 ans. Il y a différents services qui militent pour qu'une nouvelle étude soit menée, une nouvelle enquête. Et voilà, il ne serait pas surprenant que la tendance soit peut-être à la hausse. Sachant que de toute façon, pour recenser, alors il y a beaucoup ça c'est ce qu'on appelait les JAPD avant, maintenant c'est les journées défense et citoyenneté qui permettent un peu de repérer ça auprès des jeunes. Mais il y a plein d'autres situations dans l'emploi, justement on en parlait. forêts où il n'y a pas forcément de moyens de recensement et de statistiques de ces situations. Donc ça reste des chiffres un peu approximatifs en fait.
Tout ce que met en place le CRIA sert à accompagner les personnes en situation d'illettrisme, mais il faut, à un moment donné, savoir quelles le sont. Dominique Jeux nous explique ce qui existe pour pouvoir détecter ces personnes au plus vite.
Il existe aussi des outils de repérage. Donc, un peu comme ce qu'on vous a présenté en fin de débat, des grilles qui permettent, par un faisceau d'indices, par une accumulation d'indices, quelqu'un qui est toujours en retard, quelqu'un qui se fait accompagner, quelqu'un qui prend toujours le même itinéraire, quelqu'un qui n'écrit jamais, quelqu'un qui... Donc, c'est pas parce que quelqu'un n'écrit jamais qu'il est illettré, mais par contre, l'accumulation de ce faisceau d'indices peut laisser supposer que la personne est en situation de difficulté, on va dire.
Des difficultés qu'il faut bien distinguer de la dyslexie ou de la dysphasie, qui sont des handicaps.
Alors effectivement, la dyslexie, la dyspraxie, etc., enfin, il existe plein de dys qui amènent à des situations d'illettrisme, mais c'est plus un handicap qu'un fait social. L'illettrisme est plus lié à un aspect social. C'est souvent un accident de la vie, le divorce des parents, un décès. L'enfant se met à décrocher, ne va plus venir à l'école de manière régulière, ne va plus être libre dans sa tête pour assimiler ce qui est enchaîné en classe dans les différentes matières, et va finir par décrocher complètement et ne plus être intéressé par ce qu'il lit, par les cours.
Aujourd'hui, en France, une personne en situation d'illettrisme sur deux a un emploi. Certes, c'est pas énorme, mais c'est déjà bien mieux que les personnes handicapées. Malheureusement, ça vient souvent du fait que les entreprises ne savaient pas qu'elles embauchaient une personne en situation d'illettrisme, donc ce taux d'embauche ne montre pas forcément une évolution des mentalités à ce sujet. Par contre, il existe des structures qui embauchent volontairement des personnes dans de telles situations, et c'est porteur d'espoir.
Alors, il y a tous les chantiers d'insertion, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, l'économie sociale et solidaire. Donc, les chantiers d'insertion où, par définition, on va recruter des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, souvent liées à ce type de problématique, et du coup on va les aider et on va même les former. C'est-à-dire dans le champ de ce chantier d'insertion, il y a le travail, mais il y a aussi une phase de formation qui est incluse dans le contrat et qui permet donc à la personne de progresser soit sur un métier, soit sur des savoirs, ce qu'on appelle les savoirs de base, donc savoir lire, savoir écrire, comprendre ce qu'on lit et calculer.
Si vous voulez en savoir plus sur l'illettrisme, vous pouvez consulter le site de l'ANLCI, anlci.gouv.fr.
Merci Nico, merci à toutes et tous de nous suivre. C'est la fin de cette matinale. Profitez bien de ces journées. On se retrouve lundi pour parler du festival 48 images secondes qui fait son grand retour, et c'est une bonne nouvelle. Il vous reste à vous souhaiter une excellente journée. Profitez-en bien. On se quitte avec Macadam Bazar pour le meilleur ou pour le pire. À lundi. Ciao.
Je voulais pas être musicien, alcoolique pour deux sous, du vin et des copains.
Pour le meilleur et pour le pire,
trinque avec moi si tu l'oses, on s'inventera des souvenirs, l'amitié ça s'arrose.
Pour le meilleur et pour le pire,
j'ai regardé la météo, apparemment c'est pas pire, mais que demain il va faire beau.
Pour le meilleur et pour le pire,
j'ai toujours pas trouvé de boulot, mais je garde le sourire, et demain je ferai du bateau.
Facile et de la vodka, l'accordéon, la guitare et moi. Tout l'or du monde, je n'en voudrais pas. L'accordéon, la guitare et moi. Et puis facile et de la vodka, l'accordéon, la guitare et moi. Tout l'or du monde, on n'en voudra pas. L'accordéon, la guitare et moi.
Ça vaut mieux que d'être flic ou alors braquer des banques.